When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
9h01, c'est presque l'heure.
Pourquoi bon, vous éclipsez au moment que vous prenez l'antenne, vous avez vu?
Il y a eu le noir à l'antenne. Oui. La minute off aussi, mon Guy, là.
Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Nous sommes à un moment de bascule de ce conflit. Ce sont les mots de Gabriel Attal qui s'est exprimé à l'Assemblée nationale cet après-midi sur le soutien de la France à l'Ukraine. Le Premier ministre a salué la résistance du peuple ukrainien qui, selon lui, a été et reste exceptionnelle aujourd'hui. Le chef du gouvernement a ajouté qu'une victoire de Moscou aurait des risques concrets sur la vie quotidienne des Français. Dans le Gard, le corps d'une fillette de 4 ans a été découvert et les recherches se poursuivent pour retrouver son frère, lui aussi disparu. Les deux enfants âgés de 4 et 13 ans avaient été emportés samedi soir avec leurs parents dans la voiture familiale. Le corps du père de famille a lui été retrouvé hier et la mère des deux enfants avait pu être sauvée in extremis. Et puis la sœur du policier Éric Masson portera la flamme olympique. Fanny Masson, qui est elle aussi policière, fait partie des 100 personnes qui la porteront en juin prochain lors de son passage dans le Vaucluse. C'est un honneur, une manière de rendre hommage à Eric qui était un grand sportif. C'est ce qu'elle a affirmé aujourd'hui, Christine.
Merci beaucoup, très émouvant. Merci, cher Simon. Et au sommaire ce soir, une victoire de la Russie, c'est un danger direct pour notre sécurité alimentaire. Cela menacerait notre pouvoir d'achat. C'est le risque de la panne énergétique. Cela menacerait nos agriculteurs. Gabriel Attal s'est exprimé à l'Assemblée nationale en cherchant à défendre l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine. Un vote est attendu ce soir. Le RN doit s'abstenir. LFI compte voter contre. Un vote sans valeur contraignante, mais quel est donc le but de cette séquence? L'édito de Mathieu Bock-Côté. La nuit prochaine, les habitants du quartier de Blonne à Rennes seront encore dans l'angoisse, 3 jours après les scènes de guerre qu'ils ont vécues. Avec des impacts de balles à l'intérieur de certains domiciles, des tirs de Kalachnikov, on a peut-être évité un bain de sang avec une fusillade interminable. Il s'agirait de la pire fusillade depuis le Bataclan. Après Marseille, combien d'autres villes vivent la mainmise du narcotrafic? Est-ce qu'on s'habitue? L'analyse de Dimitri Pavlenko. Notre-Dame a retrouvé la charpente de sa nef. Et les charpentiers ont affiché leur joie après leur travail, ici, sur cette photo. Surprise, ils ont été victimes de milliers de commentaires anti-blancs. C'est la première fois que je vois autant de blancs sur un chantier, dénoncent certains. Comment la photo? Ils ont viré tous les noirs et les arabes pour faire la photo, hurlent d'autres. Comment est-on passé de la compétence à l'apparence? Comment est-on arrivé à la forme sans valoriser le fond? La couleur de peau dit-elle tout de chacun de nous? Le regard de Marc Menon. Alors que les députés débattent de l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine dans la guerre face à la Russie, beaucoup comme Fabien Roussel ont tenu à évoquer la situation de Gaza. Mais nous abordons rarement d'autres conflits, justement, avec des histoires abominables, des situations terribles comme Haïti, le Yémen, le Soudan. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi cette succession de séquences mortifères entre l'IVG, la fin de vie, la guerre? Pourquoi cette tyrannie du lugubre? Est-ce que le mortifère nous gouverne? Le décryptage de Charlotte Dornelas. La chasse aux Juifs est désormais ouverte, ou du moins permise en Occident, ou du moins dans les grandes villes européennes. C'est dans Figaro Vox que notre collègue Gilles William Golnadel publiait hier une tribune saisissante où il constatait que de Paris à Londres, jamais l'antisémitisme islamo-gauchiste le plus violent ne s'était heurté à aussi peu de résistance. L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure avec nos mousquetaires ce soir. Un peu de hauteur, un peu de douceur, mais beaucoup d'analyse. C'est parti. D'accord, j'enlève le mot douceur. On n'a pas beaucoup de douceur, malheureusement, dans l'actualité. Comment allez-vous ce soir?
Vous incarnez la douceur.
Qui?
Bah vous.
Mais non.
Mais si. Mais non, une douceur rayonnante.
C'est gentil, mais vous ne savez pas augmenter pour autant.
Bon, très bien.
C'est gentil, mon Marc. Merci à tous. Vous êtes tous adorables et tous doux, d'ailleurs. Alors, on va commencer d'abord par le vote du plan de soutien à l'Ukraine qui doit avoir lieu ce soir à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal a défendu l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine. Je vous propose d'écouter ses derniers mots.
Au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France, je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples, je le dis du plus profond de mes tripes qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini.
Pas l'imitation de John Fitzgerald Kennedy, Berlin 1963, Ich bin Berliner, je suis berlinois. Et on avait peur à l'époque que les soviétiques envahissent Berlin, qui était l'enclave occidentale au milieu du monde rouge.
Le vote d'aujourd'hui peut entrer dans l'histoire, disait Fabien Roussel, Mathieu Bocoté, car il peut nous précipiter dans la guerre. Vous, il disait aux députés, vous êtes majoritairement pour, alors que les Français sont majoritairement contre. À quoi sert ce vote ?
Alors, première chose, Fabien Roussel, sur ce coup, n'a pas tort. Il y a une classe politique qui, globalement, bien qu'il y ait plus de fractures qu'on ne le dit, qui se reconnaît non pas seulement dans le soutien à l'Ukraine. Ça, je pense que c'est un soutien qui est très, très majoritaire dans la population, mais qui semble prise dans la tentation de l'engrenage. La tentation de l'engrenage, c'est toujours un pas de plus, tout en prétendant qu'on ne fera pas le dernier pas. Et ça, Fabien Roussel marque, et je reviendrai vers la fin de l'édito, le fait qu'il y a un véritable clivage, qui n'est peut-être pas le clivage souhaité par la majorité, qui pour l'instant nous dit qu'il y a le courage et la lâcheté. Il se peut que les choses prennent une autre forme. Alors, retour de contexte qui nous conduit à cette séance à l'Assemblée et au traité. Que s'est-il passé ces dernières semaines? Parce qu'il y a une véritable escalade rhétorique. L'escalade n'est pas militaire pour l'instant pour la France, mais elle est rhétorique. Premier élément, on a dit l'évocation des troupes au sol. Je pense qu'on a sous-estimé l'importance de cette déclaration qui, quel que soit, est-ce que c'était politique intérieure, politique extérieure, on a évoqué la possibilité, de manière décomplexée et sous le signe du courage churchillien, la possibilité d'un affrontement entre les armées de l'OTAN et les armées russes en Ukraine. Je considère que le fait de parler de ça aussi légèrement et d'accuser soit de lâcheté, soit de trahison ceux qui ne suivaient pas le mouvement, il y avait une forme d'audace ou peut-être de témérité là-dedans. Deuxième élément, la référence à Munich. Ça, il faut juste comprendre. Qui dit qu'on est en 1938, hein, Mme Hayet dit ça, dit que l'an prochain, on est en 1939. Donc, on est à un an de la guerre mondiale. On est à 360 quelques jours de la guerre mondiale. On est à moins... faut comprendre ce qu'on nous dit en ce moment. Donc, c'est un discours où on nous dit le prochain pas est inévitable.
Et quand vous dites « on », c'est Valérie Hayet, tête de liste de Renaissance.
Oui, mais à ce que j'en sais, elle n'a pas été désavouée par les siens. Elle n'a pas été désavouée parce qu'elle a parlé ainsi. Et on comprend que si la France... Je devine que la France ne mènera pas une guerre mondiale seule contre la Russie. Donc, c'est l'ensemble de l'OTAN qui est conscrit, qui est mobilisé dans une telle déclaration. Et maintenant, ce traité qui... Et alors, c'est assez intéressant comment on nous le présente. Et je reviendrai sur la question de l'OTAN dans un instant, mais est-ce que l'Ukraine appartient à l'OTAN? Non. Comment contourner ce problème? Eh bien, l'Ukraine a multiplié ces derniers temps, et multiplie en ce moment, des traités bilatéraux de défense, d'alliance, de coopération militaire, qui lui permettent de trouver une forme d'OTAN de substitution dans les traités de coopération militaire. Et ce traité est... s'inscrit dans cette logique. On est dans une volonté très claire d'arrimer la France et l'Ukraine dans une communauté de destin stratégique au moment, faut-il le dire, où l'Ukraine est en guerre ouverte avec la Russie suite à l'invasion du pays par la Russie de Poutine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? D'abord et avant tout, la France se dit se porter à la défense de l'intégralité du territoire de l'Ukraine, notamment la Crimée. Est-ce qu'on comprend bien que si la France dit « la guerre ne se termine pas tant que la Crimée n'est pas reconquise » et qu'on sait l'importance de la Crimée pour les Russes, on accepte déjà l'idée d'un conflit qui peut s'embraser ou alors qui ne se finira jamais. Il faut comprendre ça. Parce que si l'Ukraine reprenait la Crimée, la Russie ferait tout pour reprendre la Crimée et on peut voir, donc on consent la possibilité d'une guerre qui ne se termine pas. Deuxième élément, je crois que c'est important, on voit l'ampleur des fonds qui sont mobilisés pour soutenir l'Ukraine. En 2024, 3 milliards. 3 milliards. Donc nos pays, et je ne dis pas ça pour faire le pingre, mais nos pays qui manquent d'argent, souvent pour leur propre population, trouvent les moyens de mobiliser des milliards pour soutenir une guerre que l'on peut trouver fort légitime, qui est certainement importante, mais pour un pays qui n'était pas, à ce que j'en sais, membre de l'OTAN. Donc on trouve des ressources immenses pour s'engager indirectement dans un conflit, alors qu'une bonne partie de la population française, on lui dit « on n'a pas d'argent pour vous ». Alors, il y a une forme de dissonance cognitive. Si vous
ça
êtes aux Français...
beaucoup les Français, ça.
Et je ne suis pas en train de dire que la politique étrangère, il ne faut pas y mettre un sou, hein, mais non, pas non, du tout. Sûr. Je dis simplement que si vous dites aux Français, je n'ai pas d'argent pour vous, mais j'ai 3 milliards pour, 1 milliard pour l'Ukraine, et qu'on dit aux Français, vous devez multiplier les sacrifices pour ça, ça ne peut que créer un sentiment d'exaspération. Allons plus loin, la France va engager des forces en Ukraine, non pas dans ce traité pour se battre contre les Russes, mais par exemple pour protéger la frontière avec la Biélorussie, pour que les troupes ukrainiennes puissent s'occuper d'autre chose, par exemple des Russes. On comprend donc que dans cette logique, on n'est pas dans la co-belligérance, mais on s'en rapproche, on crée les conditions possibles de la co-belligérance. Très important, de quelle manière soutenir sur le plan des armements l'Ukraine? Et bien, ce qu'on nous dit, c'est qu'on doit cesser de prendre dans le stock des armées et de l'envoyer en Ukraine, et ce qu'on peut comprendre, hein, il serait bien que la France ait quand même des armes pour se défendre elle-même. Ça peut servir à ça de temps en temps, l'armée, se défendre soi-même. Mais on veut réorienter l'industrie militaire pour faire une forme de coproduction stratégique en fonction des intérêts ukrainiens et pour renforcer la capacité, l'effort de guerre possible des Ukrainiens. La capacité militaire, dis-je. Donc, l'industrie militaire stratégique française doit désormais se penser en fonction d'une convergence stratégique franco-ukrainienne. C'est un changement de doctrine significatif pour l'industrie militaire française. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que c'est un changement de doctrine significatif. Ça va plus loin. On nous dit, bon, la lutte contre la désinformation, on peut entendre. Il y a aussi la volonté de reconstruire le pays ensuite. Ça, je pense que tous les pays occidentaux, le jour où cette guerre va se terminer, mais est-ce que c'est dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tous les pays occidentaux vont vouloir participer à la reconstruction ukrainienne. Donc ça, on peut s'entendre, très bien. Là, il y a un élément qui me semble assez problématique. On dit que la vocation de l'Ukraine est de rejoindre l'OTAN. Qu'il y ait guerre ou non en Ukraine aujourd'hui, et accessoirement, il y en a une. Qu'il y ait guerre ou non, est-ce que c'est vraiment la vocation dans un monde multipolaire, fait d'États civilisationnels, qui sont de plus en plus soucieux non seulement de leur souveraineté, mais de leur glacis protecteur, pour reprendre la formule des Soviétiques et des Russes, est-ce que c'est vraiment la vocation de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN? Est-ce qu'aujourd'hui, la France envoie comme signal, plus de 2 ans après le début de cette guerre, la vocation de l'Ukraine est de rejoindre l'OTAN? Est-ce que 10 ans cela, c'est une position, bon, les Américains disent oui une journée, non l'autre, mais est-ce qu'on se rend compte que 10 ans cela, on annonce la volonté aux Russes avec qui il faudra négocier la paix, hein? Moi, je suis pas du tout dans la tendance, oh, je comprends les Russes et j'ai de la sympathie pour eux. Pas du tout. Moi, je suis tendance en ces matières, je comprends et je soutiens l'Ukraine. Mais j'espère que ce soutien ne veut pas dire qu'on doit repousser la frontière de l'OTAN jusqu'à la frontière russe. Si tel est le cas, c'est quelque peu original. Donc, et là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut, par rapport à ce traité, la majorité va le soutenir, le RN va s'abstenir, LFI va s'y opposer, on verra les autres. Est-ce qu'il est possible d'exprimer des réserves sur ce traité sans se faire traiter de pro-russe?
Mais l'accord est très explicitement, vous l'avez dit, il n'engage pas la France à entrer en guerre aux côtés de l'Ukraine si jamais on l'attaque. Est-ce que ce n'est pas là l'essentiel? Et j'ai envie de vous demander, effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que les politiques, l'Assemblée nationale ce soir, ne sont pas les idiots utiles de la volonté d'Emmanuel Macron, si vous permettez l'expression?
Il y a un théâtre, et on pourrait y revenir effectivement, il y a un théâtre très clair où on décide de faire de la question ukrainienne et du soutien à l'Ukraine version extrême-centre, version Macronie, la question des élections européennes. Les élections européennes ne seront pas un référendum sur l'immigration, elles ne seront pas un référendum sur le pouvoir abusif de la technostructure bruxelloise, ça ne sera pas un référendum sur la reconquête de la souveraineté des peuples, la reconquête du droit national contre le droit européen. Ça devient, pour la Macronie, un référendum sur l'Ukraine. Mais vous avez raison de le mentionner, effectivement, ce n'est pas un traité qui oblige, c'est pas l'OTAN, donc il n'y a pas une coopération militaire immédiate. Donc si l'Ukraine est attaquée, la France n'est pas obligée de se dire « nous sommes attaqués, nous aussi ». Mais il faut avoir, donc, dans le texte, c'est ça, mais il faut avoir une vision un peu moins strictement juridico-juridique du texte pour comprendre ce dont il est question. Ce texte s'inscrit dans une logique d'engrenage. Une logique d'engrenage, c'est-à-dire on crée les conditions pour que tous ceux qui suivront seront obligés de situer donc, leur engagement pro-Ukraine à cette limite qu'on est, on est au seuil de la non seulement de la coopération militaire, mais de la co-belligérance. On n'a pas franchi le pas, mais on fait les on crée toutes les conditions pour que demain ou après-demain, si la situation se dégrade, la France ne puisse plus, et la France donc l'OTAN, à un moment donné, ça vient ensemble tout ça, ne puisse plus faire autrement que d'assumer une situation de co-belligérance qui deviendra peut-être d'implicite à explicite demain ou après-demain. Donc, le texte est clair, il faut le redire, ce n'est pas un texte de style OTAN où on est dans une alliance militaire obligatoire, mais on est dans une alliance qui crée les conditions de ce mouvement, cet engrenage, fait qu'il ne sera pas possible de revenir en arrière. Et j'évoquais le recours à l'histoire, les obsédés de 1938, ceux qui voient des Munichois partout, ces gens-là manquent franchement de culture historique, parce que si ça pouvait les intéresser un peu, moi je leur dirais, on en a parlé à quelques reprises, 1914, l'engrenage, un jeu d'alliance qui embrase le monde à l'ère nucléaire. C'est un peu plus compliqué. On est passé du fusil Lebel au nucléaire. Il se peut que ça change la nature du conflit.
Alors finalement, ne sommes-nous pas devant un débat qui relève, Mathieu Bocoté, aussi de la politique intérieure?
Aussi et peut-être d'abord. Je ne dis pas exclusivement. C'est fondamental ce qui se passe là-bas. Nous ne sommes pas des isolationnistes un peu bizarres. Disons, ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières ne nous intéresse pas. Mais là, il y a une instrumentalisation claire, consciente de l'enjeu ukrainien pour créer une nouvelle ligne de fracture à l'intérieur du pays. On nous dit, c'est le discours de l'extrême-centre, c'est le discours de Renaissance, de la Macronie, il y a le parti du courage, le parti churchillien, le parti de ceux qui osent se tenir debout devant la Russie de Poutine. Et de l'autre côté, il y a le parti de Munich, le parti de 1938, le parti Daladier, le parti Chamberlain, le parti poutinien, implicitement, explicitement. Parce que, regardez, ça, c'est l'élément central dans tout ça. La question est de savoir ce que veut dire soutenir l'Ukraine en ce moment. Le gouvernement nous dit, si vous n'acceptez pas notre mode de soutien, ce traité, la possibilité de l'affrontement sur le terrestre, la possibilité, la dissuasion active, c'est le concept du jour. Si vous n'acceptez pas de soutenir l'Ukraine comme on veut la soutenir, alors vous êtes pro-poutinien, alors vous êtes un pacifiste démissionnaire au service de l'ennemi. Et là, donc, autrement dit, on réduit la possibilité, le registre d'appui possible à l'Ukraine. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui du gouvernement, et il n'y en a pas d'autres. Les autres sont, dans les faits, des crypto-collabos. Il y a une originalité au patriotisme, on pourrait dire gouvernemental là-dessus. C'est un patriotisme qui tient exclusivement dans la capacité à mener une guerre sous un autre drapeau que le sien. Donc la submersion migratoire en Europe, c'est une sous-question. La soumission de la souveraineté française à la souveraineté européenne, c'est une sous-question. En fait, c'est même pas une question. Mais la capacité de tenir une autre frontière que la sienne avec un autre drapeau que le sien, là, c'est le vrai patriotisme. Dans cette logique, on pourrait croire, et c'est là-dessus que je terminerai, qu'il serait possible de retourner, puis on l'entendra probablement dans les prochains jours, l'alternative gouvernementale. Est-ce que c'est vraiment Churchill contre Daladier? Certains diront c'est le parti des votants en guerre contre le parti de la prudence, c'est le parti de la guerre à tout prix contre le parti de ceux qui cherchent à trouver une paix d'équilibre, une paix de compromis. Il est possible que le clivage proposé par le gouvernement se retourne contre lui.
Quel est votre regard, Dimitri, sur cette séquence qui ne sert à rien, on va dire, dans le sens où l'accord, le soutien est déjà accordé, on va dire. Le vote ne sert pas à grand-chose, mais politiquement, à quoi ça sert?
On a un accord quand même qui est très engageant, il faut bien le dire quand même. C'est la vision d'une Ukraine européenne qui adhérera à l'Union européenne, qui devrait adhérer à l'OTAN, qui devra, elle aussi, nous soutenir si c'est la France se retrouvait en situation d'être attaquée. C'est ça qui est écrit dans l'accord du 16 février. Donc c'est quand même extrêmement engageant. Accord bilatéral que les Ukrainiens ont répliqué d'ailleurs avec les Allemands, avec tout un tas de pays. Bon,
mais c'est un piège pour nos politiques. Séquence, on prend beaucoup de temps. Mais oui.
Non, mais ça s'inscrit.
Qu'est-ce qui va en sortir?
Clairement, je pense, dans la campagne des européennes, et je trouve quand même extrêmement ironique que Renaissance, qui se présente comme le grand parti européen, le grand parti européiste en France, finalement, résume la question à un sujet de politique nationale. Parce qu'on a bien compris, il y a ce piège-là. À un moment où l'opinion publique française, il y a une érosion très nette du soutien à l'Ukraine. Oui. Et je pense que c'est la conséquence des déclarations d'Emmanuel Macron sur les fameuses troupes au sol. Voilà. Et donc, quelque part, le président de la République veut un peu tendre le bras à son opinion publique aussi, au-delà du rapport de force avec le RN.
J'avais envie de vous entendre là-dessus. Charlotte et Marc.
Non, mais simplement pour rajouter, sans redire, c'est le seul fait d'organiser, au moment où on constate cette érosion dans la population, d'organiser un vote qui n'est que consultatif, après 2 ans d'engagement, sans aucune question posée au Parlement, donc à la représentation nationale très directement. La simple mise en scène, on va dire, de ce vote qui n'est que consultatif sur un accord qui a déjà été voté, je pense que ça peut se retourner non pas contre les Ukrainiens, mais contre Emmanuel Macron.
Et en même temps, Marc Menant, tout le monde demandait justement ce débat à l'Assemblée nationale.
Oui, mais là, il n'y a plus de débat. Parce que le seuil où se trouvent aujourd'hui le président et le gouvernement, parce qu'ils ne font qu'un, c'est le seuil de l'engagement total. On ne voit même pas comment aujourd'hui ils peuvent amoindrir leurs propos. Moi, ce qui me terrifie, c'est de se dire que Poutine ne peut pas rester comme ça. Et que Poutine peut agir en sous-main, c'est-à-dire qu'on va avoir de grands événements qui se dérouleront chez nous. Est-ce qu'il ne va pas favoriser le soutien à des groupes qui cherchent aujourd'hui à monter des opérations contre nous? Quelle sera la meilleure façon? C'est l'attaque, et une attaque souterraine, une attaque clandestine, avec pour marionnettes des groupes terroristes.
Alors il y a un tweet qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, il est odieux, c'est l'ancien président russe Dimitri Medvedev qui s'en est pris à Emmanuel Macron au sujet de la visite du président français en Ukraine. Je vous laisse lire, moi j'arrive pas à lire, c'est un peu odieux, mais c'est important de savoir quand même quelles sont les réponses.
Oui, si je peux permettre dans le mot, moi je comprends la prudence dans ce conflit, je comprends le souci de ne pas se laisser entraîner dans une guerre globale, mais ceux qui ont le réflexe pro-russe vraiment très développé devraient savoir ce que les Russes disent dans les circonstances. Ouais. À un moment donné, quand l'autre nous déclare qu'il est l'ennemi, il faut au moins le prendre au sérieux minimalement. Il y a quand même des limites à se tromper de patrie. Il ne faut pas se tromper de drapeau. Le drapeau français, c'est ni celui de l'Ukraine, et encore moins celui de la Russie. Mm-hmm.
Merci beaucoup pour votre regard. Dimitri, retour en France, restons en France. À Rennes, on a peut-être évité le pire, mon cher Dimitri, un bain de sang. Et on va en parler 3 jours après, mais c'est très important parce que ce soir, des habitants sont dans la crainte, sont dans l'angoisse, sont dans la peur.
Voilà, ils ont des policiers en bas de chez eux ce soir, hein, pour une petite semaine. Mais...
Oui, mais il n'empêche qu'ils ont peur. Et ils le disent devant les caméras qu'ils ont peur. Une semaine après, 3 jours après la fusillade interminable qui a eu lieu dans le quartier du Blône, au sud de la ville de Rennes, il s'agirait d'une tentative de prise de contrôle d'un point de deal. Et selon, on discutait ce matin, Dimitri, vous et moi, et vous me disiez que tout le monde dit que c'est peut-être la pire des fusillades depuis le Bataclan.
Oui, c'est ce que disent les policiers. La fusillade la plus longue, exception faite du Bataclan, de mémoire de policiers. Vous voyez, enfin, moi je trouve que symboliquement c'est extrêmement fort. Et ça vaut le coup de s'y arrêter parce que si on se cantonne à la présentation rapide des faits que vous faites, bon, une fusillade lors de la tentative de prise de contrôle d'un point de deal, on se dit, oh, encore une fusillade, encore un point de deal, quoi. Il y a une sorte de banalisation, vous voyez, ça s'inscrit dans la chronique habituelle de la délinquance en France en 2024, et c'est alarmant en soi de se dire qu'on s'habitue à la violence des armes, à la violence des armes de guerre, des fusils d'assaut, des kalachnikovs. Alors quand on regarde dans le détail cette affaire rennaise, on se dit qu'on s'est quand même pas habitué à tout, parce que les détails sont quand même absolument ahurissants. Les faits, les voici. Nous sommes samedi dernier, il est 1h56 du matin. Les premiers appels commencent à arriver au 17, donc le numéro d'appel d'urgence de la police. On signale des coups de feu au pied du 4 Place du Banat, donc dans le quartier du Blône à Rennes. C'est une cité comme il y en a partout en France, dans toutes les grandes villes. Des immeubles HLM. Et sur cette place, vous avez des immeubles et ça va être la scène de notre fusillade. Je vous la raconte dans un instant.
On marque une pause et c'est très intéressant de s'attarder sur ce qui se passe sur place parce qu'on commence par une ville, ensuite une autre ville, un quartier et ensuite ça s'étend. On parlera de Sciences Po, on fera un tour de table si on a le temps sur Sciences Po. On parlera aussi peut-être, j'ai un petit tweet d'Ayana Kamoura quand même pour monsieur, allez quand même. Allez, on marque une pause, à tout à l'heure. Oui, mais il faut le suivre, le feuilleton, à tout de suite. Retour sur Face à l'Info, beaucoup de sujets ce soir, beaucoup de réactions à vous proposer. Dimitri, on parlait de Rennes et du quartier du Blône. On est samedi soir, il est 2h du matin, vous nous plantiez le décor.
Voilà, et une fusillade éclate. Alors, la durée de la fusillade, elle est marquée par les appels qui sont passés par les habitants du quartier à la police. Premier appel à 1h56 du matin, le dernier ce sera à 3h03. Rendez-vous compte, ça dure 67 minutes. Vous vivez pendant une heure avec des tirs d'armes à feu en bas de chez vous. Alors, vaut mieux vous planquer parce qu'on a vu, moi je repensais évidemment au destin tragique de Sokaïna. Vous vous rappelez cette jeune femme à Marseille qui s'était retrouvée, qui était morte d'une balle perdue qui avait traversé le mur de son appartement. Et elle était morte comme ça d'une balle en pleine tête. Voilà. Et donc, le 4 Place Bana, pour vous figurer les lieux, vous avez 3 bâtiments autour de cette place avec un accès piéton. Donc, ce n'est pas facile d'accès pour les forces de l'ordre. Comme tous les points de deal en France. Vous en avez 4000 en France, des points de deal. Donc l'histoire que je vais raconter, il y a des gens qui vivent dans ces quartiers qui disent « Ah ben, c'est ce qui se passe en bas de chez moi ». Vous avez un chouf, là, un observateur, un guetteur qui est là, qui tient la porte de votre immeuble qui est censé fermer avec un digicode, qui la tient ouverte pour que les clients puissent entrer, sortir. Le four, c'est-à-dire l'endroit où on stocke la drogue et où on la vend, ben, c'est dans un des appartements du bâtiment, on ne sait pas trop lequel. On laisse entrer comme ça les yanclis, comme on dit dans le langage du deal, les clients. Voilà. Et donc samedi, 2h du matin, vous avez un commando qui tente un assaut. J'emploie volontairement ces termes militaires parce que c'est vraiment à ça que ça ressemble. Un assaut du point de deal. Une dizaine d'hommes qui sont donc encagoulés. Ils arrivent gilets pare-balles lourds. Au moins trois kalachnikovs, 3 armes, donc 3 fusils d'assaut, des armes de poing pour les autres. Visiblement en face, vous avez de quoi se défendre. Et comme ça, ça va pétarader, échange de coups de feu pendant près d'une heure. Le dernier appel à la police au 17, il a lieu à 3h03. Et sur place, on a retrouvé quand même plus d'une centaine de douilles, calibre 7,62 et 9 mm.
Quel bilan ?
Ouais. Bah, 2 blessés. Vous en avez. Alors, visiblement, ce sont des protagonistes de la fusillade, ou en tout cas, on ne sait pas exactement. Ou des gens du point de deal qui se faisaient attaquer. Vous en avez un qui a 30 ans, l'autre qui a 24 ans, une balle dans le bras, l'autre une balle dans le tronc. Alors, leur pronostic vital n'est pas engagé, mais on a des tirs qui ont traversé quand même les murs des habitations de 2 appartements. Il y avait un de ces habitants qui a témoigné sur CNews, lui a retrouvé une balle dans son micro-ondes, dans sa cuisine. Ça aurait pu tuer quelqu'un de sa famille. Donc, voyez un petit peu la situation. La police rennaise pense, comme vous l'avez dit, Christine, que c'est la fusillade la plus longue jamais constatée en France, Bataclan mis à part. Fusillade la plus longue, un échange de feu non interrompu qui dure plus d'une heure. Et alors, d'après le journal Le Télégramme, l'histoire qui se cache derrière cette attaque, c'est que le commando qui a attaqué samedi soir serait venu en fait tenter de reprendre le contrôle du point de deal dont il se serait fait dégager par une autre équipe. Les attaquants se seraient en fait alliés à des Parisiens. Et il se trouve qu'en fait ce point de deal, c'est une excellente affaire. Il rapporterait plus de 10 000 euros par jour. Il aurait une spécialité sur l'héroïne. Et son avantage commercial, si je puis dire, c'est qu'il serait très bien situé, le métro étant à 2 pas. Ça rappelle un peu l'histoire du fameux gang Yoda, vous savez, à Marseille. Le point de deal qui a fait la fortune de Félix Bingui, le chef du clan Yoda qui s'est fait arrêter.
Il connaît tout le monde, Dimitri.
S'est mis le chat, exactement. Charlotte les connaît bien aussi. Le chat, son point de deal s'est mis à devenir extrêmement rentable. Le jour où une bretelle d'autoroute s'est ouverte juste à côté de la cité. Et là, le chiffre d'affaires est monté à 50-80 000 euros par jour, dans le cas marseillais. Donc, vous voyez l'importance de la situation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces points de deal n'appartiennent pas à un gang. Ils sont disputés et on ne les rachète pas. On les attaque, on mène l'assaut. Alors on comprend aussi dans l'histoire qu'il y a aussi un autre facteur qui expliquerait la fusillade. C'est la police elle-même. Je m'explique. Depuis le mois de novembre, à Rennes, on applique ce que j'appellerais la doctrine Darmanin, ce que Gérald Darmanin a théorisé en disant qu'il faut pilonner les points de deal. On appelle ça un coup des opérations de reconquête. En ce moment, on appelle ça les opérations place nette. Mais vous voyez, c'est toujours la même philosophie, c'est-à-dire un débarquement massif de forces de l'ordre. Alors à Rennes, c'est une dizaine d'opérations depuis le mois de novembre. 70 policiers rennais avec le soutien d'une unité qui s'appelle la CRS 82, qui vient, elle, de Nantes. Et donc on investit le point de deal, on contrôle tout le monde, on interpelle, on verbalise, on casse les barricades qui sont érigées, vous savez, pour ralentir les canapés, les bras zéros, les montages de palettes, etc. On dégage les halls d'immeubles. Voilà, et on rend ça aux habitants qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre en paix. Alors évidemment, ça déstabilise les réseaux, mais ça les déstabilise le temps que la police reste sur place. Sitôt que les policiers s'en vont, eh bien ça recommence. Or, ce que vous disent aussi les policiers, c'est que quand on affaiblit comme ça une équipe qui tient un point de deal, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'elle devient comme un genou à terre, c'est la loi du plus fort, elle se fait attaquer par ses rivales et qui viennent essayer de prendre le contrôle à leur tour du fameux point de deal. Et donc c'est ce qui se serait passé à Rennes ce week-end, mais c'est ce qui se passe aussi un peu partout. Regardez l'histoire de hier, dont on a parlé la semaine dernière, cet arrêté préfectoral, donc pour interdire l'accès aux résidents des Bouches-du-Rhône condamnés pour trafic du stup, donc on comprenait les trafiquants marseillais, de se rendre à hier. Pourquoi ? Parce qu'une opération place nette dans le quartier populaire de la ville de hier, où se tenait, où il y avait un important deal, était convoitée par des dealers marseillais. L'intervention de la police avait finalement provoqué l'affaiblissement de ce réseau qui se retrouve donc victime des attaques des autres. Vous voyez, donc il y a une espèce comme ça de dilemme sécuritaire qui se manifeste clairement dans notre affaire rennaise. Voilà.
Alors on voit bien en effet, Dimitri, le dilemme en termes de sécurité publique. Vous avez parlé de la police. Dimitri, est-ce qu'elle n'est pas intervenue samedi soir? On en a beaucoup parlé déjà sur CNews, quand les narcotrafiquants se tiraient dessus. Et c'est là qu'on ne comprend pas.
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, si elle est intervenue, mais il y a eu un délai d'intervention extrêmement long. Qui explique les 67 minutes. Alors, oui. La police, elle était où? À Rennes, vous avez une antenne RAID. Vous savez, depuis le Bataclan, depuis 2015, on s'est rendu compte qu'une antenne GIGN RAID basée à Paris, si vous avez un attentat terroriste qui nécessite une intervention rapide, vous ne pouvez pas traverser le pays comme ça. Enfin, si, vous pouvez, mais il faut penser à faire le plein de l'hélicoptère. Et visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Bon. Alors, donc on a créé des antennes RAID au niveau régional. Là, en l'occurrence, le RAID, l'unité d'élite de la police, donc, elle a été déclenchée. Mais il a fallu 20 minutes aux opérateurs de la police pour comprendre qu'on avait affaire à des échanges d'armes de guerre qui demandaient une intervention, non pas d'une BAC, non pas d'une patrouille de police classique, mais vraiment de policiers de l'élite de la police. Et donc, à 2h18, le RAID est déclenché. Il arrive sur place à 2h45, mais il faut quand même appréhender la situation, mesurer ce qui se passe, observer. 3h03, les tirs cessent. Sans doute que les attaquants sont en train de se replier ou sont déjà partis. Et donc à 3h30, le RAID est maître de la zone. Les tireurs sont partis. Donc vous voyez, face à une escouade de 10 trafiquants qui sont lourdement armés, le commando, paraît-il, avait même siglé son matériel pour pouvoir se reconnaître entre eux, de manière à éviter les tirs fratricides. C'est dire le niveau de militarisation des narcotrafiquants. Eh bien, comme je vous le disais, on n'envoie pas une simple patrouille de police. Il faut des boucliers, il faut des casques, il faut des gilets pare-balles lourds, il faut des armes de guerre, il faut des véhicules blindés. Ça nous montre quoi, cette fusillade de Rennes? C'est l'arsenalisation du narcotrafic en France. C'est pas qu'à Marseille aussi, ça on le voit. Les armes, mais aussi les pratiques. Il y a une diffusion de la narcoculture qui s'inspire de ce qui se fait de plus violent dans le monde, et c'est la fameuse mexicanisation du trafic de drogue. Aujourd'hui, le terme est entré un petit peu comme ça dans le débat public. Je vous donne un exemple. Début janvier à Rennes, enfin dans le Val d'Oise, pardon. Dans le Val d'Oise, vous avez un gamin de 15 ans qui se fait enlever chez ses parents de manière extrêmement brutale. Imaginez un commando qui rentre chez vous, qui défonce votre porte, qui vous met sur le canapé et pointe une arme sur la tête, qui vous dit « tu bouges pas ». Et qui prend votre gamin et qui vous l'enlève. Voilà, ça s'est passé. Ce gamin de 15 ans, il était allé jobber, comme on dit aussi dans le langage du deal, aller travailler en intérimaire du deal à Rennes. Et lui s'était déjà fait enlever en octobre dernier. Non mais je vais vous raconter ce qu'on lui avait fait à l'époque. On l'a emmené dans un champ dans la périphérie de Rennes. On l'a mis à nu, on l'a battu, on l'a contraint à creuser une tombe à côté de laquelle on l'a allongé, on l'a pris en photo et on a diffusé la photo sur les réseaux sociaux. Vous voyez, donc c'était une intimidation. Il est vivant toujours le gamin, mais enfin, vous imaginez la scène à 15 ans. Ce qui est ahurissant, c'est que même à ça, finalement, on s'habitue. Parce que ça, on le voit aujourd'hui dans des séries. C'est devenu les codes de base du narcotrafic. La répétition des événements nous désensibilise. Dans le Télégramme, vous avez une habitante du quartier de Rennes qui disait « Oh, avant, on avait un gentil petit dealer. Il s'appelait Nono. Il était sympa. Il tenait la porte aux vieilles dames. » Voilà. Et aujourd'hui, on a ça. On est passé de Nono à ce qui se fait de pire dans un film comme Sicarios, dans la dernière fiction d'Olivier Marchal, où l'on voit exactement ça. Et le drame, c'est que Rennes, il a fallu 3 jours pour qu'on percute ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a eu la séquence marseillaise la semaine dernière. Vous voyez, cette espèce d'empilement fait que des fois, on détourne la tête, on ne fait pas attention, et après coup, on réalise la gravité de ce qui s'est produit.
Merci beaucoup, Dimitri. Et on a décidé d'en parler parce qu'on refuse de s'y habituer.
Absolument.
Merci beaucoup, Dimitri. Beaucoup de sujets. On parlera dans un instant de Sciences Po, après vous, Marc Menant. Mais Marc, Notre-Dame a retrouvé la charpente de sa nef. Magnifique, on va voir l'image, on voit les charpentiers qui ont affiché leur joie après leur travail. Tout le monde attendait justement cette charpente. Et surprise, ils ont été victimes de milliers de commentaires anti-blancs. Exemple, c'est la première fois que je vois autant de blancs sur un chantier. Dénoncent certains. Mais comment la photo, regardez la photo, comment ils ont viré tous les noirs et les arabes pour faire la photo. Fin de citation.
Ouais, j'en ai encore quelque chose, si vous voulez.
Non, mais c'est vrai. Et comment est-on passé, ma question, comment est-on passé de la compétence à l'apparence?
Non, mais ce qui est terrifiant, à travers cette haine anti-blanc, on voit quoi? Eh bien, fleurir ce wokisme, fleurir cette victimisation, ce syndrome Caliméro. Nous, on est toujours les victimes, c'est dégueulasse, etc. Mais on oublie la réalité, c'est-à-dire qu'on ignore complètement l'histoire. On ne sait pas qui sont ces gens qui se retrouvent à lutter pour redresser un monument qui symbolise quelque chose de très important pour la France. Et ça, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immigration habituelle telle qu'elle peut être exploitée et souhaitée par un certain patronat. C'est pas simplement, on vous demande d'être mobilisé au quotidien, vous tartinez, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de formation. Non, c'est là l'élite du savoir-faire. Ce sont les artistes du travail. Ce sont des gens qui sont les compagnons du devoir. Et ça, c'est formidable. Il faut savoir qui ils sont. Et ça, tout à chacun peut essayer de s'y inscrire dès lors qu'il a l'ambition d'une vie sortant de l'ordinaire. Alors, c'est vrai que le mieux, c'est d'avoir été sensibilisé et que certains, dans des quartiers, n'ont pas spécialement l'information. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comment on entre dans ces compagnons du devoir. C'est le fameux Tour de France, les compagnons. Dès l'âge de 15 ans, vous pouvez prétendre, en ayant eu un cheminement scolaire qui ne soit pas éclatant sur le plan intellectuel, mais néanmoins qui vous voie de détenir le brevet. Vous avez 15 ans, vous devenez apprenti. Et là, pendant 3 ans, les premières notions d'un métier vous seront données. En gros, il y a une vingtaine de métiers. Là, il faut savoir aussi, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai noté, alors vous avez déjà, même les échafaudiers. Quand on voit les échafaudages de Notre-Dame, c'est pas simplement monter 3 bouts de zinc et avec les clés à molette. Ça demande un savoir-faire inouï. Vous avez également les cordeliers. Alors les cordeliers, c'est les trapézistes, je dirais, des échafaudages. Eux, ils sont sur leur petite nacelle, accrochés à des filins, on tire avec les bras et on est là pour sécuriser l'ensemble du travail des camarades. Et puis, vous avez ces professions qui sont les tailleurs de pierre, les vitraillistes. Personne ne connaissait ce mot, les vitraillistes. Ce sont ceux qui réparent les vitraux. Et là, ça demande ces années de travail. Alors, d'abord, vous êtes apprenti. Au bout de 3 ans, vous avez une formation, les notions qui vous sont données, quelques petits stages en entreprise. Et si vous montrez un certain don, une volonté, que vous avez l'esprit du compagnonnage, eh bien, vous pourrez vous inscrire dans le deuxième étage qui est aspirant. Là, pendant 3 ans, vous courez de ville en ville, 2 villes par an, et à chaque fois sur des chantiers qui sortent de l'ordinaire, en rencontrant des gens qui sont galvanisés par leur savoir-faire et qui sont là, qui vous montrent comment. Le quotidien n'est pas l'habitude, non. Le quotidien, c'est la création. Ça nécessite un état d'esprit, cette mobilisation, ce désir d'une excellence, donc de donner le meilleur de soi, et une vie de communauté, mais pas la communauté où on se détériore, non, la communauté de la fraternité. Vous avez dans chaque de ces villes où vous apprenez le métier, en quelque sorte, où vous allez ciseler, vous avez des foyers. Alors à l'époque, au Moyen-Âge, ça nous remonte au Moyen-Âge, c'était les aubergistes. Alors, vous aviez la mère. La mère, c'était ou le père aubergiste. Et le soir, on entrait là. Il fallait enlever son chapeau, mettre des vêtements propres. Pas question d'arriver avec les souillures qui ont taché votre tenue. Et puis, vous attendez qu'on vous demande de vous installer. Et également, on vous donne un nom. Le nom, c'est en fonction de votre région. Alors, vous allez vous appeler le Languedocien la Vertu. Vous allez vous appeler l'Auvergne, l'Auvergnat le résolu. C'est comme ça qu'on vous interpelle autour de la table. Et puis il y a le chansonnier, c'est-à-dire qu'on dit l'Auvergnat le résolu, à toi de chanter. Mais là, vous n'allez pas y aller de la petite chanson de Caillard, la petite chanson qui sortirait de la gorge tonitruante de Mathieu. Non, non, vous allez prendre le chansonnier et là, il faut versifier en quelque sorte. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose d'éclatant. Et puis après, vous devenez carrément compagnon. C'est encore 3 ans d'errance complète. Voilà ce qu'est
le métier qui peut vous permettre de briller dans les monuments historiques, qui est une mobilisation en soi, une façon d'embrasser son destin.
Très intéressant. Je vous embête quand même parce que vous êtes passé à côté de ma question.
Pourquoi ?
Pourquoi il n'y a pas, les gens disent, pourquoi il n'y a pas de noir et d'arabe, par exemple, sur la photo ?
Je viens de vous le dire.
Alors, mais pourquoi ?
Eh bien, parce que, apparemment...
Je comprends les compagnons du devoir, je comprends tout ça.
Eh bien, mais il faut avoir envie de s'engager, c'est ouvert à tout le monde. Tout à chacun peut y aller. C'est pour ça que j'ai dit, en petit aparté, j'ai dit que malheureusement, dans certains quartiers, on ne vous donne peut-être pas l'information, que vous avez les tentations, malheureusement, d'être dans la dérive des points de deal, que vous avez la religion qui vous absorbe, etc. Et puis, la victimisation, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et à la fin... Eh bien, ce parcours d'excellence, où en plus, là, il n'y a pas d'excuse de l'argent, car vous touchez un demi-SMIC dès le titre d'apprenti, donc dès les premiers mois où vous entrez dans cette longue ligne. Sachez quand même que, bien que déterminés, il n'y en a que 10 sur 100 qui finiront vaillants compagnons.
Formidable éloge de ses compagnons du devoir. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir réduit tout ce travail à des critiques racistes. Un petit tour de table peut-être sur des étudiants qui ont bloqué Sciences Po. Paris en soutien à Gaza. Alors une soixantaine d'étudiants ont bloqué un amphithéâtre de Sciences Po. À Paris, on a quelques images entre 8h et midi ce mardi matin. Une étiquette a renommé d'ailleurs la salle Gaza. Et des keffis palestiniens ont été accrochés aux portes. À l'intérieur de la salle, des drapeaux palestiniens sur les murs et les écrans. Sylvie Retailleau, la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, s'est rendue sur place et elle a tweeté nos établissements sont des lieux d'études et de débat. Le droit doit y être strictement respecté. Il est intolérable et choquant d'y subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine. Tiens, le mot est lâché. Je viens de me rendre à Sciences Po pour faire un point avec la direction. Notre fermeté ne faiblira pas.
Bon, elle ne faiblit plus longtemps, il faut être sérieux. Ce qui se passe...
Je trouve quand même que vous êtes peut-être un peu dur, parce que c'est rare, hein, que justement que...
Non, mais
qu'une ministre aille à Sciences Po et dire attention, oui, là, incitation à la haine.
J'entends bien, mais ce que je vois par là, c'est que ce qui se passe à Sciences Po, c'est le point d'aboutissement pratique de la culture idéologique qui s'est établie dans les universités, dans l'enseignement supérieur plus largement, depuis un bon moment. C'est l'idéologie dominante qu'on voit là, qui se concrétise aujourd'hui dans une forme d'antisémitisme qui ne dit pas toujours son nom, ou qui de temps en temps le dit. On dit les sionistes, vous ne pouvez pas entrer. Bon, qu'on se comprenne, soyez honnête, dites les juifs, vous ne pouvez pas entrer. Donc on est sur une logique discriminatoire revendiquée. Mais c'est pas surprenant.
Après, sur la venue de la ministre de l'enseignement supérieur, on a eu la même séquence la semaine dernière avec Nicole Belloubet qui s'est rendue au lycée Maurice Ravel en disant, voilà, le laxisme, détourner les yeux, on sait où ça conduit. Là, c'était dans le cas, c'était différent. C'était de menaces qui visaient un proviseur. Mais là, c'est un petit peu la même chose. C'est quand même effarant.
Oui, on a l'impression que c'est trop tard, mais il faut saluer quand même, je trouve. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'absence justement à Sciences Po. Il y a eu beaucoup de cas comme ça où le gouvernement n'est pas allé sur place.
Ben, c'est assez nouveau et c'est à saluer qu'il y a enfin une réaction politique. Mais moi, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, mais enfin, je veux dire, cette mentalité-là, elle est ancrée, elle est installée dans tous les lieux de production de la future élite française. Mmh. C'est ça qu'on est en train de voir.
Charlotte et Marc.
Mais c'est surtout que le déplacement, il faudra suivre les décisions après le déplacement, parce que rencontrer la direction, formidable, mais la direction a-t-elle même le pouvoir de dire quelque chose à ses étudiants ? Franchement, parfois, on se demande. C'est-à-dire qu'on a vu, d'ailleurs, à Sciences Po, comme dans d'autres universités, des directions absolument débordées, incapables même d'instaurer le minimum d'ordre dans leur université.
Bah, elle est complice, la direction, le plus souvent. Ça fait des années maintenant. Vous ne pouvez pas tenir une conférence sur tel sujet parce que ça ne correspond pas à la mentalité wokiste, etc. Et c'est la direction qui instille ça. Les professeurs sont dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que l'élève, moi j'en connais une qui se trouve actuellement à Sciences Po, si elle prend position contre les camarades, elle devient une facho simplement pour être dans l'idée de l'échange qui est la base même de l'intellectuel, échanger des arguments.
En tout cas, j'ai bien noté incitation à la haine. Je ne sais pas si elle a porté plainte, mais bon, c'est intéressant de souligner ça. Charlotte, voilà, on voit qu'on parle de Gaza, on parle de l'Ukraine. Aujourd'hui, on attend le vote hein, ce soir d'un instant à l'autre à l'Assemblée nationale du plan de soutien de la France à l'Ukraine. Et très régulièrement, Charlotte Dornelas, des artistes, des politiques, des journalistes évoquent donc cette situation à Gaza qu'on vient de voir à Sciences Po. Mais nous abordons rarement d'autres conflits avec des histoires abominables, des histoires terribles, des morts non moins injustes. Haïti, le Yémen, le Soudan, le Mali. Comment expliquer ces deux poids, deux mesures ?
Il y a forcément plusieurs facteurs, évidemment, mais il y en a un premier qui m'apparaît être le plus évident. C'est la question de la proximité que nous avons ou non, d'abord avec les pays qui sont concernés et avec les conflits eux-mêmes. C'est certainement pas, alors évidemment, précisons, c'est pas une question de proximité humaine. C'est-à-dire que vous pouvez raconter les atrocités de la guerre au Yémen, au Mali ou à Haïti, ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y aura la même émotion devant le récit même de la guerre, d'une famille décimée, d'enfants qui meurent, que ce soit à peu près partout dans le monde. Simplement, les récits ne nous parviennent pas de la même manière, non pas parce qu'on veut les empêcher ou quoi, mais parce qu'ils ne s'offrent pas de la même manière à la population française, tout simplement. Sur la question de l'Ukraine, déjà, on l'entend assez régulièrement, même si l'Ukraine n'est pas au cœur de l'Europe, comme nous disait Gabriel Attal, c'est aux confins de l'Europe, évidemment. On l'avait vu avec les sondages, vous savez, au moment du début de la guerre, sur l'accueil des réfugiés. Il y a de manière très claire, et on le dit souvent ici, une opposition à l'immigration en France. Et au moment où la guerre était de l'autre côté de quelques frontières, on va dire, pour ce qui concerne la France, vraiment très proche de chez nous, il y avait une volonté d'accueil, en tout cas une acceptation de cet accueil de véritables réfugiés de guerre qui était immense en France. Et ben c'est exactement la même chose que dans la proximité avec le conflit. C'est évidemment la reconnaissance. C'est des gens qui sont plus proches de nous, qui nous ressemblent plus et donc on se sent naturellement plus concernés. Ensuite, c'est évidemment un conflit dans lequel nous sommes territorialement à portée de guerre. C'est pas rien quand même, évidemment. Et là, je renvoie aux analyses régulières de Mathieu, évidemment. Et par ailleurs, on sont en scène dans ce conflit-là des blocs qui, historiquement, que nous comprenons par rapport à d'autres conflits où, franchement, il faudrait rentrer dans un détail qui échappe à peu près à tous les Français, et nous y compris. Sur Gaza, il y a plusieurs facteurs de proximité. C'est pas exactement la même chose.
Fabien Roussel, à l'Assemblée nationale, par exemple, il a tout de suite fait le lien. Vous parlez de l'Ukraine et Gaza. Je veux dire, on fait tout de suite le lien.
C'est ça. Alors, la question de Gaza, c'est la question plus largement, évidemment, du conflit entre Israël et le Hamas. On l'a vu le 7 octobre aussi, sur l'attaque du Hamas sur les Israéliens. Il y a eu une implication, un traitement médiatique en France infiniment supérieur à d'autres attaques aussi dans le monde. Pourquoi ? Parce que d'abord, Israël et la région de manière générale n'est pas un pays comme les autres dans le monde, certainement pas pour des Occidentaux. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Terre Sainte. C'est la Terre Sainte pour tout le monde, quasiment. Donc c'est un lieu chargé à la fois d'histoire et particulièrement, évidemment, pour des Occidentaux. Ensuite, il y a la raison le 7 octobre, du terrorisme islamiste, là très directement, qui frappe un pays qui est conçu, pensé comme occidentalisé. Donc évidemment que là, il y a une proximité par rapport à des histoires que nous connaissons déjà, une menace que nous partageons en l'occurrence. Et enfin, il y a la question de cette importation du conflit, non pas tellement parce qu'on importe ce conflit plutôt qu'un autre, mais simplement par les personnes qui charnellement portent ce conflit, qui sont directement concernées par ce conflit, qui ont directement de la famille, qui sont directement même culturellement impliquées dans ce que revêt ce conflit qui est le conflit par ailleurs dans le monde. Et enfin, la deuxième, donc après la question de la proximité, je pense que la deuxième lecture qui est beaucoup moins noble que la première, c'est la question politique, la lecture politique utilisée dans ces conflits. Sur l'Ukraine, c'est assez évident ces derniers jours, et je renvoie à l'édito de Mathieu, il n'y a pas simplement la question, d'ailleurs, les récits de ce que vivent ou de ce que subissent ou de ce que souffrent les Ukrainiens nous parviennent assez peu, hein, soyons clairs. C'est pas du tout la guerre dans l'horreur qu'elle a pour les habitants dont nous parlons quotidiennement. Donc évidemment, on comprend, on voit se dessiner des clans, certains renvoyés à des clans d'ailleurs qu'ils ne revendiquent pas. On voit la question de l'UE, la question de l'élargissement de l'UE, la question de l'OTAN. Donc c'est des questions éminemment politiques qui ne se posent pas évidemment aux soldats ukrainiens qui sont en train de risquer leur peau sur le terrain là aujourd'hui. Donc on a deux lectures différentes. Sur Gaza, c'est encore plus frappant et peut-être encore plus ancien évidemment. Alors là, il y a une lecture d'affrontement, mais même d'affrontement politique qu'on retrouve sur d'autres sujets. On a d'un côté ceux qui décrivent comme une guerre de civilisation, on a ceux qui décrivent comme la grande révolte des dominés sur les dominants à travers le monde et que l'on retrouverait à Gaza, et s'invite des questions bassement électorales, mais là, extrêmement locales. Personne ne s'adresse évidemment électoralement aux habitants de Gaza, mais on s'adresse électoralement à un monde musulman pour qui la question palestinienne est intrinsèque, on va dire, à la pensée de ce monde musulman. Et d'ailleurs, on le voit à travers le monde. Et évidemment que les autres conflits ne sont pas moins terribles. Et c'est pour ça que la lecture moralisante a ses limites. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens dans le monde qui souffrent et dont personne ne se soucie en France. Mais ces conflits nous interpellent moins sur les terrains historiques et culturels qui, évidemment, génèrent la proximité.
Et je pense aussi à l'Arménie. Et on pourrait en citer beaucoup.
L'Arménie, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que certains se sentent très concernés parce que précisément, c'est un berceau chrétien. Donc ça rappelle quelque chose qui nous ressemble.
Est-ce que cette omniprésence du sujet de la guerre ne joue pas considérablement, Charlotte Dornella, sur le moral des Français, que l'on décrit comme très mauvais assez régulièrement ?
On parle énormément de la politique de la peur et de la politique de l'angoisse et de ce ressort-là. C'est souvent dénoncé d'ailleurs. Et évidemment que quand vous usez et abusez de ce ressort-là, vous avez un peuple en face de vous qui est craintif, déprimé donc, et angoissé surtout par l'avenir. Et là, en l'occurrence, les sujets dont on est en train de parler, c'est légitimement angoissant. Mais c'est un peuple qui ne s'interroge plus sur sa liberté, même plus sur son rapport à l'État, mais qui n'exige de l'État que sa protection et qu'une question de sécurité. Bon, la période du Covid, pour ça, a été absolument stupéfiante, parce qu'en plus, il y avait la rapidité des décisions et la disparition, on va dire, même de la possibilité de poser une question. Mais de manière générale, la question de l'insécurité mondiale, de l'insécurité internationale, nous offre le même spectacle. C'est-à-dire qu'on finit par collectivement se satisfaire de l'idée d'une mainmise absolue de la disparition même du processus démocratique dans des sujets qui sont quand même extrêmement importants, surtout quand on nous présente la guerre, non pas comme, et c'est exactement l'édito de Mathieu encore une fois, c'est pas plusieurs options politiques qui répondent à une situation sur laquelle d'ailleurs on peut être d'accord, hein, sur la question de l'agression de la Russie sur l'Ukraine, l'intégralité du spectre politique la décrit comme ça. Donc ensuite il y a des réponses politiques. Mais quand vous réduisez ça au bien contre le mal, la situation vous échappe. Politiquement, il n'y a plus de réponse. C'est une guerre totale, c'est une guerre religieuse, c'est une guerre spirituelle, finalement. Et l'autre exemple, c'est évidemment l'angoisse de la fin du monde, l'angoisse climatique de la fin du monde. Et là, pareil, plus rien, vous ne reculez devant plus rien quand l'enjeu, c'est la fin du monde. Donc vous pouvez compter, surveiller, dénoncer, restreindre absolument toutes vos libertés et même votre liberté de penser, de dire différemment. Vous restreignez tout ça, parce que si c'est le monde qui est en jeu, là encore une fois, ça vous échappe. Ça échappe aux idées, ça échappe aux ressorts politiques. Le point commun de ces différents sujets, c'est qu'ils dessinent très concrètement une société qui n'a plus d'élan vital. Et c'est, je pense que c'est ça qui se dessine de plus en plus, parce que l'élan vital, il comporte le risque, l'imperfection et l'altérité, le fait qu'il y ait une autre personne qui ne soit pas comme moi. Et c'est, si on veut vivre, il y a le risque aussi que l'autre soit différent, pense différemment et qu'on puisse s'y affronter. Donc en amont, on renonce politiquement à la prudence sur beaucoup de sujets, l'insécurité notamment. Et en aval, on renonce donc à la liberté, pourvu que nous ayons des droits à revendiquer. Mais un droit ne définit pas sa propre liberté et il ne définit pas non plus sa propre sécurité. Donc vous voyez qu'on finit par revendiquer des droits, si possible, sur le terrain matériel, parce que nous n'avons plus rien. Et j'ai trouvé une phrase de Boalem Sansal, qui à mon avis résume parfaitement le sujet. « Notre monde ultra-mécanisé, standardisé, est devenu trop triste, trop pauvre, et ne propose rien d'autre que du normatif et de l'abrutissement pour mourir sans douleur. » Alors, elle est hard, hein, la phrase. Voilà, mais je pense qu'elle dessine en tout cas jusqu'au bout cette tendance.
Même lorsque nous parlons de notre société et des sujets sociétaux, nous nous cantonnons à des sujets lourds. Quoi qu'on en pense sur le fond, nous passons par exemple de la constitutionnalisation de l'IVG à une loi sur la fin de vie, en passant par la guerre. Est-ce que le mortifère nous gouverne ? Est-ce que c'est la tyrannie du lugubre, comme dit Marc Menon ?
Ça a l'air de n'avoir rien à voir. Et en même temps, on voit que le mot progrès ces dernières semaines et donc ces derniers mois sur les deux sujets que vous citez, la constitutionnalisation de l'IVG et la question de la fin de vie, le progrès se bat lui-même sur le terrain de la mort. Et alors du fait de la dominer, hein, mais se bat sur ce terrain. Mais en réalité, c'est le fruit de la révolution moderne. On pourrait mettre aussi dans ce sujet-là la question de la redéfinition de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, si je résumais, je mettrais Dieu, alors Dieu, la création, c'est-à-dire ce que nous recevons, ce que nous subissons d'une certaine manière, Dieu est définitivement mort. Donc l'homme moderne veut le remplacer. Mais pourquoi ça a à voir ? Parce que ça installe une insécurité intérieure immense. Quand plus rien ne vous est donné et donc vous n'avez même plus le repère de ce que vous êtes physiquement, de ce que vous êtes biologiquement, de la vie et la mort qui étaient les deux dernières choses qui ne nous appartenaient pas, ça crée une insécurité, ça crée des questions en tout cas vertigineuses. Et par ailleurs, la maîtrise de ces sujets-là repose sur une illusion. On en parlait hier. On n'arrive pas à l'assumer. On ne dit pas suicide assisté parce que c'est trop lourd. Donc on dit aide à mourir. On ne voit plus l'avortement que comme un droit. On ne veut plus savoir ce que c'est. Et on parle de la transidentité. Pour cacher la réalité, on dit que les hommes peuvent accoucher. Parce que la réalité est trop dure à assumer, parce qu'on ne veut pas l'assumer. Donc on la cache derrière un voile, on va dire, de pudeur. Mais on parle souvent de civilisation. Mais une civilisation, la base d'une civilisation, c'est de s'entendre sur ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, sur ce qui est bien et mal de manière évidente. C'est évidemment là aussi, sur ces questions-là, que se situe un basculement civilisationnel, beaucoup plus même que de société. Et je pense qu'on n'appréhende pas la mesure des questions que l'on se pose, tout simplement. Qu'on peut se poser, hein, mais on n'appréhende pas la lourdeur de ces questions.
Très intéressant ce voile de pudeur ou de peur qui assure la société en ce moment. Merci beaucoup, Charlotte. Un petit tweet quand même, juste avant de passer à vous, Mathieu, parce que c'est notre épisode régulier. Aya Nakamura qui a tweeté « Merci pour le soutien à toute ma commu. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'ils nous aiment ou pas, c'est leur dos. » Voilà. Je voulais quand même.
Elle est là pour faire jaillir un nom qu'on avait oublié, Edith Piaf. Ah ouais,
ça... ben oui, voilà, vous ça fait. Pas, ah bah, ouais. Ouais, mais pardon. Ne vous inquiétez pas, Mathieu, je vous sens stressé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Mais pas du tout, pas du tout.
Notre collègue Gilles-William Golnadel publiait hier une tribune saisissante, Mathieu, où il constatait, ce sont ses mots, hein, que la chasse aux Juifs est désormais ouverte, ou du moins permise en Occident, ou du moins dans les grandes villes européennes. C'est choquant, non ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, c'est un constat qu'on fait depuis 20 ans. Mais on l'a fait d'abord en un lieu. On disait que c'est un fait divers. Ça comptait pas vraiment. Rappelez-vous, hein, on l'a souvent mentionné sur les travaux de Georges Bensoussan, qui avait noté qu'en certains territoires de la nation, les Juifs n'étaient plus les bienvenus et fuyaient. Donc c'était soit l'Aliya en Israël, ou alors c'était l'Aliya dans d'autres parties du territoire national où ils ne devaient plus vivre en rasant les murs, en ayant peur pour leur vie. Mais on a dit que c'était limité, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas en rajouter. D'ailleurs, c'est l'extrême droite qui instrumentalise cette peur. Ensuite, Golnadel nous dit qu'un discours antisémite s'est normalisé dans les universités. Il s'est normalisé, on en a parlé il y a un instant, dans la société en général. Et là, il y a une étape de plus qui a été franchie, c'est que c'est plus simplement certains territoires où les Juifs étaient condamnés finalement à vivre dissimulés. Ce qui s'est passé à Londres ces derniers temps, Marc en a déjà parlé, ces manifestations massives où les islamistes sont emparés de la ville et disent « mort aux Juifs ». C'est quand même... On n'est pas dans l'ambiguïté, là. On n'est pas dans la volonté de dissimuler de mauvaises intentions. On les revendique. Dire « mort aux Juifs », sans gêne, dans la rue, à Londres, comme on le voit aujourd'hui, parce qu'une journaliste britannique avait surnommé, il fut un temps, Londonistan, eh bien, Londres est une ville conquise. Londres est une ville conquise. Si vous pouvez vous promener comme ça dans la ville, vous comprenez, si vous êtes juif, que vous n'êtes plus le bienvenu dans cette ville. D'ailleurs, le Daily Telegraph, le 8 mars, l'a présenté, Londres, une ville aujourd'hui interdite aux juifs. Et à Paris, au moment de la journée dédiée aux droits des femmes, les manifestantes qui voulaient témoigner de leur soutien aux femmes violées ou exécutées au moment de l'agression du Hamas en Israël, elles ont été chassées au cri, nous dit Golnadel, de sales juives. Sales juifs, c'est quand même... Là, on se force même pas. Ils ont même pas la pudeur de dire sales sionistes. Hein. C'était leur manière de dire qu'ils ne pensaient pas vraiment ce qu'ils pensaient. Là, on bascule dans le sale juif. Donc, voyons tout cela. C'est une idéologie. En fait, c'est les Juifs sont-ils condamnés à la maranisation en Europe, hein? C'est-à-dire, sont-ils condamnés à devenir de nouveau marins, à vivre dans la clandestinité, à vivre dans le voilement de leurs propres convictions? À tout le monde, c'est le portrait que nous fait Golnadel.
Cette séparation territoriale est appelée à durer, selon vous?
Ah, on n'est pas dans le provisoire. Hein. On n'est pas dans le provisoire. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que Golnadel nous dit que le sort des Juifs annonce celui des populations historiques européennes. Mm-hmm. C'est le canari dans les circonstances. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais l'Europe, si ça se poursuit, rien n'est fatal. Mais on est quand même une forme de fédéralisation ethnique de l'Europe, où il y aura des communautés ici et là, dont il n'y aura plus de nations. C'est terminé. Il y aura des replis communautaires des populations dites de souche, il y aura des replis communautaires des populations nouvellement installées. Il y a l'islamisme qui va radicaliser la situation. Il y a les Juifs qui ne sauront plus exactement où se loger, qui n'auront plus de maison. Libanisation, brésilianisation, américanisation, les concepts se sont multipliés ces dernières années pour décrire cette fragmentation totale. Et Golnadel, écrivant, ne semble pas particulièrement optimiste et nous sommes obligés de lui donner raison.
Quelle tristesse en tout cas. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Dimitri, on se voit lundi prochain. Charlotte, Marc, excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud, l'heure des Pro 2.